marche. Bonsoir à tous et merci de votre patience pour cette dernière présentation de la journée et de la conférence. Donc moi aussi, je vais commencer par présenter les auteurs, en commençant par mon collègue Jean-Marc Percher, qui est responsable du département informatique à l'ESEO à Angers, avec lequel nous travaillons depuis bientôt 3 ans maintenant sur ce type de préoccupation dans le cadre de différents contrats et activités sur lesquels j'aurai l'occasion de revenir. Donc en ce qui me concerne, je suis Bernard Jouga, je suis donc de Supélec, ici à Rennes, je travaille avec Ludovic May, et accessoirement je suis responsable du deuxième master qui est hébergé sur le campus et qui est intitulé Réseau informatique et télécommunications. On a pris le risque de vous faire une vraie démo, donc avec du matériel qui est là-bas. Donc la démo marchait à 2h ce midi, on espère qu'elle marchera toujours à 17h, de façon à ce qu'on puisse vous montrer un réseau ad hoc qui se construit, qui évolue et qui est attaqué, et sur lequel on détecte effectivement les attaques menées. Alors je ne vais pas vous refaire une présentation sur ce qu'est un réseau ad hoc, ce qu'est le routage dans les réseaux ad hoc, puisque ça vient d'être fait par Valérie Guéraud. Donc vous trouverez quand même des éléments d'information dans le papier qui est dans les actes, qui présente aussi d'une façon résumée le protocole de routage que nous avons expérimenté, et donc vous verrez la mise en œuvre au niveau de la démonstration. Donc nous sommes partis sur OLSR pour un certain nombre de raisons, j'y reviendrai aussi. Donc pour aller droit au but, donc, le constat qui est notre point de départ est le suivant. Donc on a des réseaux sans fil d'une façon générale qui sont plus sensibles que les réseaux filaires aux problèmes de sécurité. Ça, je pense que c'est un point qui a été largement abordé au cours de ces 3 journées. Donc sensibiliser aux intrusions, faciliter de faire du déni de service à différents niveaux, on vient d'en parler, au niveau protocole radio, au niveau protocole de routage. Ces failles de sécurité potentielles sont augmentées par le contexte ad hoc, donc là aussi pour un certain nombre de réseaux. Donc le fait que l'on soit dans un type de réseau sans infrastructure, donc en particulier, a priori, sans équipement dédié à des fonctions de sécurité telles qu'on peut les trouver dans les infrastructures fixes, donc pas de pare-feu a priori, pas de serveur d'authentification, au moins pour l'instant, etc. Des vulnérabilités propres supplémentaires liées au mode de fonctionnement ad hoc, donc les protocoles de routage, on a déjà un petit peu dévoilé le sujet, les problèmes d'autoconfiguration, donc qui en rajoutent, de topologie dynamique. Et donc finalement, les services de sécurité, que l'on va pouvoir installer sur ces réseaux, ils doivent s'adapter au contexte, c'est-à-dire être distribués, coopératifs et taillés pour les caractéristiques de ces réseaux, donc en particulier compatibles avec la bande passante et l'autonomie assez faible des nœuds du réseau. Donc après ce constat présenté en introduction, vous avez là le plan de ma présentation. Donc je vais commencer par présenter un modèle de sécurité pour les réseaux ad hoc tel qu'on a pu le définir dans le cadre d'une de nos premières activités sur le sujet. Motivation des travaux sur la détection d'intrusion, et puis ensuite on va rentrer là vraiment dans le vif du sujet, donc avec un modèle d'IDS, c'est-à-dire d'Intrusion Detection System, distribué pour les réseaux ad hoc. On a mené un certain nombre d'expérimentations sur le prototype que l'on a réalisé, donc que je présenterai. En conclusion, je parlerai des travaux futurs et actuels que l'on mène sur le sujet, et puis donc une démonstration d'intrusion et détection d'intrusion sur un réseau ad hoc. Alors le modèle de sécurité, je vais peut-être passer assez vite parce que ça correspond à des choses qui ont été plus ou moins dites dans la présentation précédente. Donc il consiste à dire que d'une part pour les manettes, on va bien évidemment, dans la mesure du possible, réutiliser, réexploiter des mécanismes de sécurité qui ont déjà été définis par ailleurs, par exemple ici SSL-TLS. Qu'il y a des travaux en cours, on l'a vu en particulier dans le domaine de l'authentification, donc c'est MAE pour Manette Authentication Extension, donc qui est une façon de nommer les différents travaux dans le domaine de l'authentification dans les réseaux ad hoc. Et puis, donc s'inscrivant dans la philosophie profit des travaux d'équipe tels qu'a pu la présenter Ludovic May hier. Notre credo est et reste pour l'instant la détection d'intrusion, donc la volonté de rajouter à ces différents dispositifs des mécanismes de détection d'intrusion qui vont interagir avec les couches réseau en particulier de façon à pouvoir avoir des actions en cas d'intrusion, des actions de coupure des connexions, on le verra au niveau de la démonstration. Et donc l'objectif de cette présentation, c'est de mettre le focus sur cet aspect intrusion détection des intrusions et ses spécificités dans les réseaux ad hoc. Alors la motivation de nos travaux part là aussi des constatations suivantes, c'est de dire qu'a priori les dispositifs qui ont été conçus, qui ont été imaginés pour l'instant, ne sont pas forcément bien adaptés au concept réseau filaire et réseau ad hoc plus spécifiquement. Donc là aussi, à cause des caractéristiques que l'on a déjà énoncées de ce type de réseau, donc pas de point de concentration du trafic, le fait que chaque nœud a une vision assez très limitée de l'activité du réseau, et donc que de notre point de vue, il est intéressant, il est nécessaire de définir une architecture d'IDS spécifique, donc suivant un modèle distribué et coopératif donc, que l'on va vous présenter, donc qui s'appuie sur l'installation dans chaque nœud du réseau d'un système local de détection d'intrusion, donc ce qu'on en a appelé un LIDS pour Local Intrusion Detection System. Et ces différents systèmes locaux vont communiquer, vont coopérer de façon à établir une meilleure vision de la situation, et en particulier en cas d'attaque, en cas d'intrusion. Alors avant de se lancer là-dedans, on a bien évidemment regardé ce qui avait été fait. Donc les références bibliographiques sont bien évidemment dans l'article qui est dans les actes. Donc on a regardé ce qui a été fait, ce qui avait été fait au niveau des IDS distribués. Donc vous avez ici un certain nombre de références qui ont toutes comme caractéristique commune, c'est la quatrième colonne, pré-traitement des données, d'avoir dans la partie sonde, je dirais, un pré-traitement des données qui est distribué sur un certain nombre de nœuds du réseau. Donc ce sont des propositions qui n'ont pas été faites dans le contexte des réseaux sans fil ou des réseaux ADEP, mais avec quand même une volonté de distribution des traitements. Ce qui est intéressant, et on va y revenir puisque notre approche utilise cette technologie, c'est de constater que parmi ces différentes propositions, vous en avez deux, c'est IDEA et Michael dans le bas du tableau, qui utilisent des technologies de type agent mobile. Par contre, quand on s'intéresse à l'aspect détection, donc c'est là la cinquième colonne, l'analyse des données et la détection des intrusions est centralisée dans la plupart des cas, sauf dans trois cas, qui sont CSM, Michael encore une fois, et Sparta, donc les deux derniers. Alors c'est expliqué dans l'article, quand on regarde les choses un peu plus finement, on s'aperçoit que seul CSM a une architecture vraiment distribuée, sans point de concentration, mais est un IDS qui est spécialisé dans la détection d'un type d'intrusion particulier, qui est par analyse de suivi de connexion. En ce qui concerne les deux dernières propositions, Michael et Sparta, donc même s'il y a une certaine distribution des traitements, il y a quand même un point central qui est présent pour des raisons d'ailleurs qui ne sont pas les mêmes dans Michael et Sparta, peu importe. Donc tout ça pour dire qu'on estimait qu'il y avait des choses à faire, d'un petit peu original par rapport à ce qui avait été, déjà proposé. Donc l'architecture que l'on propose a les caractéristiques qui sont indiquées ici. Donc on veut une certaine souplesse, une certaine faculté d'adaptation à différentes technologies, à différents contextes d'utilisation. Donc on ne veut pas se fixer sur une méthode de détection par scénario ou par comportement. Dans un premier temps, on a fait de l'analyse par scénario, mais notre système est suffisamment ouvert pour accepter d'autres moteurs de détection. De la même façon, on ne se fiche pas sur l'exploitation d'un type de données particulier. Pratiquement, on est parti sur un système qui se base sur l'analyse de données en provenance de la MIB, la Management Information Base, donc qu'on le trouve sur les équipements réseau a priori. Éventuellement en faisant un certain nombre d'extensions comme je l'indiquais au niveau de cette MIB. Donc notre objectif est de faire de la détection d'intrusion en temps réel, d'avoir une réponse active en local sur le nœud détectant l'intrusion, donc l'intrusion le concernant, donc en offrant par exemple la possibilité de couper une connexion et informative vers les autres nœuds du réseau, donc en laissant la responsabilité finalement aux acteurs utilisant ces autres nœuds de prendre les mesures actives éventuellement nécessaires. Donc toujours avec un souci de consommer le moins possible de ressources au réseau, et puis bien évidemment en respectant les normes et les standards actuels et futurs. Donc voilà une première vision des choses tout à fait macroscopique vue d'avion. Donc avec notre réseau ad hoc, avec une communauté d'utilisateurs qui va implémenter dans sa machine, qui va installer dans sa machine cet IDS local, ce LIDS, qui est un code portable qui est écrit en Java, qui va opérer la détection des intrusions en faisant de la collecte, d'une part en faisant de la collecte d'informations dans la MIB locale, installée sur chacune des stations, et qui va pouvoir récupérer des informations concernant l'état de station appartenant à cette communauté par l'intermédiaire d'une technologie à agent mobile. Donc là, pour l'instant, on n'a pas réinventé la science. On utilise une technologie existante qui est la plateforme Aglet d'IBM. Ceci étant, on verra dans les conclusions qu'il y a sans doute aussi des choses à faire de ce côté. Alors pourquoi les agents mobiles ? Donc les agents mobiles, je pense que tout le monde sait un petit peu dans le principe ce que c'est. Donc le principe, c'est de déplacer le code vers les données, d'avoir des morceaux de code qui vont se déplacer sur les machines et ensuite revenir éventuellement à la machine initiatrice de l'opération. L'exécution est complètement asynchrone chez l'agent, hein, complètement autonome. Donc il y a aussi l'aspect autonomie en termes de code. Hein. Donc, un code qui est indépendant de la plateforme et donc qui va pouvoir s'exécuter sur des plateformes de types différents. L'aspect intelligence, donc on transporte du code, donc on est capable de s'adapter à différents contextes en fonction de la situation trouvée sur le nœud. Les intérêts que l'on y voit, c'est au niveau, donc j'ai dit tout à l'heure qu'on utilisait des requêtes à la MIB. Le protocole SNMP, chacun sait que ce n'est pas quelque chose de très sécurisé, de très fiable. Donc dans notre cas, on va se contenter de faire des requêtes SNMP locales. On ne va absolument pas activer le protocole SNMP à travers le réseau, même si on s'intéresse à des variables MIB. On va utiliser les agents mobiles finalement pour récupérer d'une façon fiable les données. Et en fonctionnement en mode client-serveur, on a une certaine optimisation des échanges réseau. Donc en ce qui concerne la plateforme qu'on en a retenue dans un premier temps, donc, qui est la plateforme d'IBM, la plateforme Aglet, qui est une des plateformes les plus répandues sur ce type de technologie. Étant donné les besoins, on est dans un contexte de mobilité faible ici. Alors mobilité faible, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va transporter du code et des données, mais qu'on ne va pas transporter un contexte d'exécution. Contexte d'exécution, ça voudrait dire qu'un agent serait capable de commencer un traitement sur un nœud, de s'interrompre, de suspendre le traitement et de poursuivre le même traitement sur un autre nœud. Ici, ça n'est pas le cas. L'agent va s'installer sur un nœud, va faire un traitement atomique et quand il aura fini, il va se déplacer pour aller faire autre chose ou la même chose ailleurs. Donc en ce qui concerne les aglets, ce qui est intéressant dans un premier temps pour nous, c'est que cette plateforme intègre un certain nombre de fonctions de sécurité. Premièrement parce que une aglet c'est un objet Java et donc on récupère un certain nombre de mécanismes de sécurité de Java, je n'insiste pas. Parce que l'aglet est exécuté dans un certain contexte et que l'on va pouvoir définir, associer à ce contexte, une politique de sécurité. En particulier concernant la capacité d'une station à accueillir tel ou tel agent pour faire tel ou tel traitement. Les aglets dialoguent entre eux par message, donc avec possibilité de chiffrer ces messages. L'accès aglet se fait par l'intermédiaire d'un proxy, et puis on a des fonctions de confidentialité et d'authentification de l'aglet qui sont activables. Donc simplement pour illustrer un petit peu la chose, vous avez sur une première machine un contexte donc qui va autoriser ou sur une deuxième machine un autre contexte, donc ces contextes vont autoriser ou non l'autorisation, l'exécution de ces agents. Donc vous avez un premier agent qui est installé sur la machine A, donc avec le proxy, un deuxième agent qui est installé sur cette machine et qui va pouvoir se translater sur une deuxième machine. Après cette petite digression concernant les agents mobiles, si on revient maintenant dans le cœur du sujet, c'est-à-dire sur l'architecture de notre IDS, donc on a repris le modèle que présentait hier Ludovic May, c'est-à-dire le modèle de l'IDWG sur les systèmes de détection d'intrusion. Simplement, par rapport au modèle de base l'IETF, on a rajouté un message, comme vous pouvez le constater, entre le bloc fonctionnel d'analyse et le bloc fonctionnel senseur. Donc c'est le message qu'on a intitulé requête, et qui permet à l'analyseur de collecter, donc d'avoir une action effective de demande d'informations complémentaires pour préciser la situation. C'est effectivement ce que l'on va mettre en œuvre par l'intermédiaire de nos agents mobiles. Alors d'une façon un petit peu plus spécifique, un petit peu plus détaillée, cette deuxième figure met en situation sur la partie gauche du schéma la plateforme d'accueil des agents, donc avec ici trois agents qui sont installés. Donc c'est évidemment quelque chose qui va être dynamique au cours de la vie du dispositif. Et puis deux modules spécifiquement développés, donc qui sont ce que l'on a appelé d'une part l'agent IDS local, donc qui a comme c'est le cœur du dispositif, le cœur du système de détection d'intrusion. C'est lui qui va analyser les locales dans la MIB. C'est lui qui va communiquer avec la plateforme à agent pour demander la création et l'émission d'un agent vers d'autres stations, de façon à obtenir des informations complémentaires en cas d'intrusion. La deuxième partie spécifique développée aussi dans le cadre de l'étude, c'est ce que l'on a appelé ici l'agent MIB local. Effectivement, nous avons eu besoin, par rapport aux données standards présentes dans la MIB, telle qu'elle est définie dans les RSC, de rajouter des variables supplémentaires pour prendre en compte le routage ad hoc. On a en particulier réalisé une extension MIB pour le routage ONSR, de façon à pouvoir détecter des intrusions liées à l'évolution de variables de surveillance de ce protocole de routage ad hoc. Alors pour l'instant, comme on vous l'a dit tout à l'heure, les protocoles de routage sont toujours à l'état de draft. Cet aspect management n'a pas été abordé dans les drafts, donc là on a fait une proposition qu'on n'a pas eu, je dirais pour l'instant, la prétention de soumettre à l'IETF, et qu'on pourrait, pourquoi pas, proposer au moins comme un ébauche de début de solution, je dirais. De façon plus détaillée, quand on regarde le schéma fonctionnel de l'IDS, donc là vous avez d'une façon beaucoup plus détaillée un certain nombre de blocs fonctionnels qui apparaissent, que je ne vais peut-être pas détailler entièrement d'ailleurs, mais ce qui est important de noter, c'est dans la partie haute du schéma, le bloc fonctionnel IDS Framework. Donc là encore une fois, c'est là que les choses se passent au niveau des détections d'intrusion. Vous avez juste en dessous l'Event Abstraction Framework, donc qui s'intéresse à tout ce qui est interaction, communication avec la MIB, donc avec la base de données de management. Sur la partie droite du schéma, la plateforme à agent mobile est coincée dans le bas à gauche, l'IDS Communication Framework. Là, ça correspond au souci que l'on a d'avoir une plateforme qui soit ouverte et qui soit apte à communiquer avec d'autres systèmes de détection d'intrusion, donc en s'appuyant sur les standards existants, et en particulier IDMF. C'est quelque chose sur lequel on a travaillé au niveau de la conception, qui n'est pas implémenté pour l'instant au niveau du prototype que l'on va vous montrer. Donc on fait réapparaître ici la spécificité de notre architecture, donc, consistant en la mise en œuvre de cette plateforme à agent mobile. Alors qu'est-ce qu'on a fait avec ça? Puisque des développements ont été faits et puis il y a eu un certain nombre d'expérimentations qui ont été menées et qui sont encore menées aujourd'hui. Pour l'instant, au niveau des résultats finalisés, on a fait deux choses. Donc comme je vous l'ai dit, nous on s'est intéressé à OLSR. Alors pourquoi OLSR? Parce que c'est une proposition française qui a été faite par l'équipe de l'ENRIA, parce qu'on avait des sources disponibles. Donc on a pu récupérer une implémentation de OLSR qu'on a d'ailleurs patchée pour un certain nombre de raisons. On a mené une étude sur la vulnérabilité du protocole OLSR, au moins dans ses versions provisoires. Donc c'est une étude qui date un peu maintenant, puisqu'elle date de 18 mois, et les drafts ont évolué depuis. Donc on a défini une extension de MIB spécifique, comme je le disais il y a quelques instants. Alors, au niveau des attaques, des vulnérabilités et des attaques que l'on a pu identifier sur OLSR, cette liste ici n'est pas exhaustive, et présente simplement les deux attaques pour lesquelles on a décrit un scénario et que notre système est capable de détecter, qui sont deux attaques par déni de service, donc l'un permettant d'isoler une station, c'est-à-dire qu'on va, à chaque fois ça repose sur l'émission de faux messages de routage, et on est capable de court-circuiter finalement un poste, donc le poste est blacklisté finalement. La deuxième attaque, le déni de service du Zenso, va permettre, un petit peu à l'identique de ce qu'a présenté Valérie Guéraud tout à l'heure, de détourner le trafic vers un nœud malicieux. Donc ça ne se fait pas tout à fait de la même façon, parce que OLSR fonctionne différemment, mais finalement la conséquence est la même. Donc ça, on ne va pas vous présenter ça aujourd'hui, parce qu'on a déjà présenté à multiples reprises, donc on va plutôt vous présenter autre chose, qui est l'attaque StepStone. Alors l'attaque StepStone, elle est pas caractéristique en soi des réseaux ad hoc. Donc c'est une attaque assez ancienne qui a été expliquée, publiée en 95. Donc qui consiste à détecter, à considérer comme une attaque, enfin comme un comportement suspect, une cascade de connexion telnet. C'est-à-dire qu'on soit une connexion telnet qui est issue d'une connexion telnet et même issue d'une connexion telnet. Donc on considère ça comme suspect. L'intérêt de cette attaque, c'est une bonne façon de démontrer l'intérêt de la mise en œuvre des agents mobiles. Donc le principe c'est le suivant, hein, comme je le disais, vous avez une machine C, donc qui est la machine attaquée, donc qui reçoit une connexion telnet de la machine B, qui est elle-même issue d'une connexion telnet de la machine A. Alors si je reprends mon schéma d'IDS d'une façon beaucoup plus simplifiée par rapport au schéma assez dense de tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que l'on a ici? On a sur la droite la partie SNMP, donc l'agent SNMP, la MIB locale, le démon SNMP qui va permettre d'interroger tout ça, ce que l'on a appelé ici le manager global de l'IDS, donc c'est le moteur de détection d'intrusion, ça gère aussi une petite IHM comme on le verra, la plateforme agent mobile, et excusez-moi, je suis allé trop vite, et puis ce qui n'est pas cerclé, le trieur de connexion, donc qui est un module spécifique de l'IDS, qui va nous permettre de mettre en association au niveau d'un nœud une connexion telnet sortante avec une connexion telnet rentrante, comme on va le voir ensuite. Donc ça démarre comment? Ça démarre au niveau de la machine attaquée. Sur cette machine, a priori, au moins sur deux de ces machines, comme on le verra au niveau de la démonstration, il y a l'IDS qui est installé. Donc sur la machine C, on va détecter l'ouverture d'une connexion telnet. Donc ça, on va le faire par l'intermédiaire de l'agent SNMP, parce qu'il y a des variables qui vont bouger là-dedans et qui vont permettre de reconnaître la connexion telnet. Donc ça, c'est une information que l'on va transmettre à l'IDS. Et l'IDS, qu'est-ce qu'il va faire à ce moment-là? Eh bien, il va diligenter l'enquête en demandant premièrement la création d'une aglette. Donc on aura récupéré par SNMP l'adresse IP de source du telnet, le numéro de port de cette machine B, et donc on va créer, c'est en bas à gauche, ici un aglet transportant cette adresse IP, ce numéro de port, et on va envoyer ça à B pour demander est-ce que c'est une connexion, est-ce que c'est un telnet natif ou est-ce que c'est un telnet consécutif à un rebond. Donc ça arrive chez B. Donc B récupère la glette par l'intermédiaire de la plateforme, la glette s'exécute, et va par l'intermédiaire du trieur de connexion interroger localement la MIB pour savoir si on est en début de chaîne ou s'il y a un saut supplémentaire à accomplir. Donc là on s'aperçoit qu'il y a un saut supplémentaire à accomplir, et que cette connexion telnet, elle est liée à une connexion provenant de la machine d'adresse, la machine A, donc avec son adresse IP et son numéro. Donc ça, on transmet à A, et là, on arrive en début de chaîne, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que ce telnet n'est pas consécutif lui-même à un rebond telnet, donc on a remonté toute la chaîne. Donc, mon athlète, mon agent mobile, il a fait son petit tour d'investigation. Arrivé en début de chaîne, il va revenir à l'émetteur initial, c'est-à-dire à la machine B, donc qui va récupérer la chaîne des adresses IP des machines détectées sur le chemin. Et cette information va être exploitée par l'IDS, donc dans un premier temps pour afficher, tel que c'est indiqué ici, la chaîne des connexions telle qu'on a pu la remonter. Donc ça, vous verrez ça, je l'espère, si tout se passe bien de façon dynamique dans quelques instants, par le biais de la démonstration. Je ne suis pas trop long, ça va ? Conclusion et travaux futurs. J'ai bientôt fini de toute façon. Alors ces travaux, comme je vous le disais il y a quelques instants, ont débuté il y a bientôt 3 ans. Dans un premier temps, dans le cadre d'un projet RNRT qui s'est terminé il y a bientôt 1 an, qui s'est terminé en septembre 2002. Donc c'était le projet RAMS, labellisé en 99, RAMS pour réseau ad hoc multiservices sécurisé, dont les partenaires sont présents sur le slide, donc 2 partenaires académiques, les EO et les Supélec, et puis 3 partenaires industriels, donc d'ordre d'addition à l'écran EDF R&D, pour les aspects applicatifs, donc c'était tout à fait intéressant de travailler avec ces gens-là, qui ont des scénarios applicatifs qui correspondent à leurs différents métiers, qui sont intéressants, qui ont des moyens à mettre à disposition pour réaliser des expérimentations en vraie grandeur. Donc on a pu avoir un véhicule équipé en 802.11, une collection de PDA diverses et variées. Enfin, on a pu faire des choses intéressantes au niveau expérimental, en vraie grandeur. Un deuxième partenaire industriel qui est Sixwind, donc qui est une société issue de Thomson des Texas, devenue Thales, que certains d'entre vous connaissent peut-être, et qui s'est spécialisé dans IPv6, qui aujourd'hui fabrique et commercialise un certain nombre d'équipements de routeurs IPv6. Et un dernier partenaire qui est NetCentrex, donc qui est une société issue de France Télécom cette fois-ci, qui fait dans la téléphonie sur IP, des aspects applicatifs quoi sur IP au niveau des scénarios expérimentaux. Alors les résultats du projet RAMS, donc en ce qui nous concerne, hein, ce ne sont pas les résultats généraux du projet qui a été beaucoup plus diversifié, mais en ce qui nous concerne, sachant que la contribution Supélec et Zéo était axée sur, d'une part, la définition d'une architecture de sécurité, d'autre part, la réalisation d'un prototype de détection d'intrusion, donc on a rempli le contrat, je dirais, de ce point de vue, en concevant et en validant une architecture d'IDS distribuée à passage en mobile, donc détection d'ADAC sur le routage OEDFR, détection d'ADAC par rebond d'Ednet dans un premier temps. Donc il y a une plateforme que l'on souhaite et que l'on espère évolutive.